Bleu, RCFM. France
Bleu. RCFM, Christine Aloudi, les experts.
Et bonjour et bienvenue dans les experts, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RCFM, c'est le dernier jour de la semaine. On va parler aujourd'hui de gaspillage vestimentaire avec nos invités. Alors si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, 04 95 32 22 22, Nathalie vous accueille au standard et Alicia Bruyne réalise cette émission.
Les experts, 9h30, 10h30, Christine Aloudi.
Jean Manel, Señorita sur RCFM.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
La production et la surconsommation de vêtements détruisent la planète. Alors pour continuer à alimenter sa garde-robe tout en respectant l'environnement, les consommateurs se tournent vers de nouvelles pratiques. Savez-vous combien de litres d'eau ont été nécessaires pour fabriquer le jean ou t-shirt que vous portez actuellement? Quel est le coût environnemental de votre penderie? On va faire le point là-dessus ce matin. Alors comment essayer de résister au phénomène de la fast fashion? C'est notre dossier du jour. Pour parler de ça avec moi ce matin, je suis en compagnie de Thomas Hurier. Bonjour.
Bonjour.
Thomas, vous êtes fondateur de la marque 1083 et de la plateforme Modétique. À vos côtés, Lucie Lebas. Lucie, bonjour.
Bonjour.
Lucie, vous êtes conseillère en images éthiques.
Tout à fait, c'est ça.
Et on a avec nous aussi Augustin Letellier. Bonjour.
Bonjour.
Pour la marque de vêtements éthiques Marsou. Alors, je le disais en introduction, nos armoires regorgent de vêtements peu ou pas portés, ces vêtements pour lesquels on a craqué, parce qu'ils étaient trop beaux, parce qu'on se dirait bien que ce petit haut pour la soirée à laquelle on est invité, il passerait super, parce qu'il n'était pas trop cher et parce que les collections changent si vite. Cette mode, c'est la fast fashion, la mode jetable. Elle est accusée de générer beaucoup de gaspillage et de pollution. Quel est son impact sur l'environnement? On va essayer d'y répondre ce matin. Aujourd'hui, les gens achètent deux fois plus qu'il y a 15 ans et les portent deux fois moins longtemps. Comment on peut contrer un petit peu ça, Thomas Hurier?
À mon avis, déjà en faisant la pédagogie des conséquences de cette surconsommation, on parle beaucoup de la pollution de l'industrie textile à travers les processus qui sont polluants. En effet, les teintures, les délavages, les kilomètres parcourus par les vêtements, c'est vraiment catastrophique. Pour autant, le pire de tout, c'est le volume. C'est-à-dire que, en fait, on produit un nombre de vêtements inutiles incroyable. Et du coup, l'important à notre sens chez 1083 pour sortir de ce système-là, c'est de faire la pédagogie et de ce qui ne va pas dans ce système-là, et de montrer aussi, en faisant des vêtements de qualité, des vêtements produits localement, montrer aussi la qualité et le sens et le plaisir qu'on peut avoir à consommer mieux.
Alors déjà, rappelez-nous pourquoi 1083, Thomas ?
1083, c'est une marque que j'ai lancée il y a 6 ans. C'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de métropole. Ça va de Menton au sud-est à Porstoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc notre démarche, au-delà de parler du Made in France, c'est vraiment de parler de proximité, parce que plus on consomme près des lieux de fabrication, plus ça fait sens pour le consommateur, parce que du coup on se rend compte comment c'est fabriqué. Un jean, ça pousse pas sur un arbre. Et aussi, moins on a de pollution, puisque du coup on limite les transports. Et quand on est proche des conséquences des choix qu'on fait, on fait plus attention. Donc du coup, on aime vraiment cette notion de proximité. Et c'est pour ça que la marque s'est appelée 1083.
Je rebondis sur ce que vous disiez pour le jean. Je lisais en préparant cette émission, un jean, c'est 85 douches. Ça te demande beaucoup d'eau?
Oui, alors il y a plusieurs sujets avec le jean. Il y en a énormément même. Pardon. Le premier, c'est les kilomètres pour fabriquer un jean. Il faut en moyenne faire 65 000 km des champs de coton jusqu'au magasin. Donc c'est une fois et demie autour de la Terre, c'est effarant presque. Et après il y a le sujet de la consommation d'eau, qui est un problème qui est plus compliqué qu'il n'y paraît, puisque quand on consomme beaucoup d'eau dans un pays où il y a beaucoup d'eau et qu'on ne pollue pas cette eau, en réalité, comme l'eau s'inscrit dans un cycle, ça ne pose pas de problème. Le sujet, c'est vraiment de polluer l'eau. Et quand on n'utilise pas du coton bio, le coton conventionnel est extrêmement polluant. Donc, en plus de consommer beaucoup d'eau, parfois dans des pays où il n'y en a pas beaucoup, finalement, on pollue cette eau. Et le gros problème de l'eau, c'est qu'on la pollue quand on fabrique des jeans et des vêtements.
Oui, on pollue l'eau et puis on la pollue même quand on lave. Même faire attention, je rebondis encore sur ce que vous dites, mais vous parlez du coton, essayez d'avoir des matières de plus en plus nobles, parce que quand on lave du polyester, on ne sait pas, mais ça libère je ne sais pas combien de plastique dans l'eau, quoi.
Oui, quand on lave des vêtements, les lessives agressent un petit peu
la fibre
et fragilisent le vêtement. C'est pour ça qu'au bout d'années, les vêtements s'usent et à chaque fois, ça largue dans la nature via nos machines à laver des microparticules de nos vêtements. Alors quand ces microparticules sont des microparticules de fibres naturelles, ça se dégrade, donc c'est pas catastrophique. Par contre, quand ces microparticules sont des fibres qui se dégradent en millions d'années, comme le plastique, là ça pose problème, parce que ce plastique, ces microplastiques viennent s'accumuler dans l'écosystème, notamment dans les mers et dans les océans, et remontent toute la chaîne alimentaire.
Mais je crois qu'en fait, on ne se rend pas bien compte. Hein, quand j'ai préparé ce sujet, même moi, j'étais un peu effarée. Quoi, parce que le gaspillage vestimentaire, je disais qu'il n'avait jamais été aussi important, plus 811% depuis les années 1960. Et que la mode était la deuxième industrie la plus polluante après le pétrole. Et ça ne s'améliore pas, en fait. Hein, puisque les déchets textiles pesaient environ, il y a 60 ans, 1,8 million de tonnes, contre 16 millions aujourd'hui.
Oui, alors c'est vrai que de manière rationnelle, c'est relativement flippant tout ça, parce que du coup, c'est énorme, c'est mondial, c'est partout, et en même temps, il faut bien qu'on s'habille, on ne va pas juste tout nu, et au-delà de l'enjeu de la protection, un vêtement c'est fait pour se protéger du froid, du chaud, éventuellement, et de l'humidité. Pour autant, quand on achète des vêtements, c'est pas fondamentalement pour ces raisons rationnelles. Le vêtement, c'est avant tout un média, un moyen de dire qui l'on est. Et ce besoin, irrationnel, identitaire, il est plus archaïque, plus ancien que le besoin de se protéger. Parce que quand on habitait tous dans des grottes, qu'on était tous poilus il y a des dizaines de milliers d'années, on n'avait pas besoin de s'habiller physiquement, puisqu'on était protégés par nos poils. Mm-hmm. Pour autant, déjà, on se parait de bijoux, de vêtements, de tatouages. Et donc, l'enjeu auquel répond le vêtement, c'est avant tout un enjeu identitaire. C'est pour ça que quand on fait des jeans bio, Made in France, c'est très bien. Mais avant tout, faut que ce soit des jeans qui soient bien coupés, qui plaisent, qui fassent des jolies fesses. Sinon, on ne répond pas à cet enjeu identitaire.
Mais ça donc, peut, c'est pas forcé que ce soit pas, ça peut aller l'un avec l'autre, quoi. C'est pas antinomique,
exactement.
J'ai envie de dire.
C'est fondamental de lier les deux. C'est-à-dire que face à ces désastres rationnels que vous exprimez à travers tous ces chiffres, la réponse ne peut pas être que rationnelle et il faut vraiment s'atteler en plus de travailler à des filières beaucoup plus raisonnables et des cycles de production et de commercialisation beaucoup plus raisonnables. En plus de ça, il faut vraiment travailler sur l'accessibilité en termes de prix, de style de nos marques et du coup, la réponse qu'on peut apporter pour améliorer le marché textile n'est pas qu'une réponse d'amélioration des processus, c'est une réponse aussi qualitative en termes de style, en termes d'offres, de choix, pour que finalement tous ceux qui se disent « Ah ben ouais, finalement, j'en ai marre d'acheter des jeans qui polluent, je vais acheter des jeans qui polluent moins », il ne faut pas que ces gens-là changent d'identité en changeant de marque.
C'est ça, il faut que ça reste quand même des gaines et en même temps que de moins, enfin, réduire son impact sur la planète, quoi.
C'est ça, il faut vraiment faire les deux en même temps.
Et justement, on a quelqu'un qui va vous aider à faire ce tri dans votre dressing, Lucille. Alors, vous avez créé un blog. Vous avez complètement, vous allez nous expliquer, vous avez complètement changé de façon d'être. Vous êtes rendu compte en fait que vous aviez un gros impact sur l'environnement. Vous êtes dit bon, 200 pièces dans mon dressing, c'est 5 tonnes de CO2, 2,3 millions de kilomètres séparent une voiture. J'arrête de consommer comme ça et je me fais un dressing capsule. C'est ça qui s'est passé ?
Alors pas vraiment. Moi en fait, l'écologie est venue en devenant minimaliste.
D'accord.
Au début, j'ai voulu changer mon dressing avant tout pour moi, pour mon développement personnel, parce que je voulais avoir un style qui me correspondait mieux, des vêtements qui étaient plus confortables, moins me prendre la tête le matin, moins passer de temps à savoir ce que j'allais mettre, et finalement avoir moins de dressing encombré et me sentir mieux chez moi. C'était vraiment la première démarche finalement, c'était plus une démarche de développement personnel. Et finalement, quand on fait le tri, j'avais plus de 300 vêtements, aujourd'hui j'en ai une cinquantaine pour toute l'année, été-hiver, avec chaussures comprises. Et quand je faisais le tri de mon dressing, je me suis aperçue que quand on veut du vêtement durable, on veut des matières plus naturelles, parce qu'elles vont durer plus longtemps, et puis c'est des choses qu'on peut porter plusieurs fois. Par exemple, j'ai des t-shirts en laine mérino que je peux porter deux jours, dans lesquels j'ai pas d'odeur, il y a plein de vertus extraordinaires, par exemple, dans cette laine. Et forcément, en allant vers des matières naturelles et des plus jolies marques éthiques, l'écologie est venue et ça faisait sens. Mais au début, c'était beaucoup pour un combat de développement personnel.
D'accord, donc ça c'est parti de là. Et ensuite, vous avez pris conscience de l'impact du coup que vous aviez avec votre dressing sur la planète.
Oui, complètement. Notamment par rapport aux matières synthétiques.
Et on fait comment pour faire un dressing minimaliste ?
Alors, déjà, il faut bien se connaître, parce qu'il faut connaître sa morphologie. Il faut avoir des tenues qui sont adaptées à soi. Une personne qui a une taille fine ne pourra pas s'habiller comme... Bon, là, je parle pour les femmes notamment, mais comme une personne qui a une morphologie ou qui n'a pas de taille, enfin, par rapport à l'œil en tout cas,
bien sûr.
Ce sera différent. Et pour pouvoir sublimer justement, avoir un dressing qui soit efficace, il faut avoir des pièces adaptées à sa morpho. Il faut avoir des pièces qu'on peut associer facilement pour pouvoir... les porter ensemble, les porter en soirée, les porter en journée. Donc des pièces un peu passe-partout. Et puis d'autres pièces donc intemporelles. Et puis d'autres pièces un petit peu plus fortes pour pouvoir mettre un peu de couleur et de peps dans sa garde-robe. Je pense par exemple à un beau perfecto, des chaussures, peut-être une paire de chaussures qui change un peu coloré, un sac à main un peu original. Avec une base de vestiaire qui soit minimaliste, qui soit intemporelle.
Intemporelle. 04 95 32 22 22, si vous aussi vous voulez faire le tri dans votre dressing, si vous avez envie de consommer mieux, vous nous appelez et puis vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités du jour. On parle gaspillage vestimentaire aujourd'hui.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
ch'ella in misi un passo per scalza.
À Pédiscal, ça sur RCFM.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Et nous consommons en moyenne 60% de vêtements de plus qu'il y a 15 ans et nous les conservons moitié moins de temps. Selon un rapport de France Nature Environnement publié en 2018, certaines pièces ne sont portées qu'une dizaine de fois avant d'être jetées par leur propriétaire. C'est pour ça aussi que vous êtes arrivée à un dressing minimaliste, Lucie Lebas.
Oui, Lucie Lebas. Comme je disais, c'était pour différentes raisons, et c'est surtout dans maintenant à la fois écologique, à la fois pratique, et pour le style aussi, parce qu'on pense qu'avoir moins de vêtements, ça nous empêche d'avoir un style, qu'on puisse être moderne et être dans l'air du temps, et en fait, pas du tout. Moi, je trouve que ça a été un super avantage, au contraire.
Vous gardez vos vêtements plus longtemps, du coup,
puisque
c'est plus de qualité.
Oui. Avant, je pouvais changer de garde-robe presque tous les deux mois, peut-être même moins. Et maintenant, depuis presque trois ans, j'ai les mêmes vêtements. J'en achète de temps en temps, mais c'est très rare. Enfin, j'ai peut-être acheté trois pièces dans l'année.
D'accord, mais c'est aussi un travail sur soi, sur sa tête, parce que des fois, on a envie quoi, quand même d'acheter, quand on voit des belles choses.
Bien sûr, mais c'est vraiment un choix de vie parce qu'à partir du moment où on a des vêtements dans lesquels on se sent bien, on n'a pas envie d'être dans autre chose. C'est une vraie question de confiance en soi, en fait, le vêtement. À partir du moment où on est OK avec nos vêtements, on se sent bien, ils nous mettent en valeur, on n'a pas envie d'avoir autre chose. Parce que c'est ça le but, en fait. Le vêtement, pour moi, c'est un peu comme une armure positive qui va nous aider à affronter un peu notre quotidien, à affronter un entretien, une demande d'augmentation de salaire, un premier rendez-vous amoureux, etc. Et si on a des vêtements dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on a confiance, on sait qu'on va pas beaucoup transpirer, qui vont pas nous faire, enfin, qui vont pas nous gratter, on n'a pas la taille qui sert, etc. En fait, on a envie de les garder, on n'a pas envie de les changer. Mais c'est un vrai questionnement. Et puis c'est beaucoup de recherches en amont. Par exemple, pour moi, chercher un jean, ça va prendre des semaines.
1083. On a l'adresse aussi. Maintenant.
Exactement.
Apprendre à s'habiller éthique, ça commence dès l'enfance avec Marceau. Augustin Letellier, bonjour, on vous a pas trop entendu, on me dit pourquoi Augustin il parle pas. Alors Augustin, on commence dès l'enfance à prendre conscience de son impact sur l'environnement, on apprend ça à nos enfants?
Bah, l'idée c'est qu'on leur apprenne et on sait que les parents c'est les meilleurs pour apprendre aux enfants. Et donc nous on essaye surtout de cibler les mamans et d'apprendre aux mamans à moins gaspiller.
Au moins gaspiller. Donc, expliquez-nous un petit peu le concept de Marceau.
Alors, le concept de Marceau, c'est tout d'abord la fabrication française. Donc, c'est de remettre au goût du jour des styles un peu rétro. C'est de la qualité authentique française, une production responsable et un prix honnête et abordable. C'est vraiment hyper important pour nous de garder un attrait pour le consommateur et d'avoir un prix qui soit le plus abordable possible.
Et garder aussi des vêtements qui peuvent se transmettre aussi de génération en génération, parce que quand on regarde votre site, du coup, c'est des intemporels.
Exactement. L'idée, c'est de reprendre des styles un peu anciens et de les remettre au goût du jour, et afin qu'ils soient exactement totalement intemporels.
Voilà. Et du coup, on réduit comme ça son impact sur l'environnement.
Tout à fait. Et ce que nous on peut donner comme conseil en fait pour moins gaspiller, c'est une consommation raisonnée. C'est exactement les différentes interventions de Lucille et de Thomas. C'est de dire qu'on consomme local, on consomme français, on consomme même seconde main. Et nous on est tout à fait à l'aise pour le dire et on évite ce qui est production à outrance.
Donc, vous dites vous consommez seconde main. Expliquez-nous un petit peu.
Nous, alors, on est vraiment... l'idée, c'est de transmettre son vêtement à la fratrie. C'est de faire des vêtements qui soient de la meilleure qualité possible pour transmettre aux frères et sœurs, aux cousins. Et encore une fois, c'est acheter des tissus de bonne qualité pour qu'ils puissent être transmissibles. Mm-hmm. Et ensuite, ça peut aussi être... On travaille avec des associations pour donner. Tout ce qu'on ne vend pas, on évite de le laisser dans la nature. Donc on va le donner à des associations. Et ensuite, on pousse les gens effectivement à utiliser tout ce qui est vide-dressing. Et on travaille avec aussi des vide-dressing pour enfants pour pouvoir éviter le gaspillage.
On a une question d'une auditrice, Caroline, qui nous demande comment on fait pour estimer son empreinte écologique de sa garde-robe. Je pense que c'est pour vous, Thomas.
Eh ben, je crois pas que c'est de remède miracle. je pense que ouvrir les portes de son dressing et compter le nombre de vêtements et voir si on se rapproche des quelques dizaines, des quelques centaines, donne une bonne idée de son impact carbone. Je pense que plus on se rapproche du minimalisme, plus on est respectueux de l'environnement. Et un autre moyen, à mon avis, très simple de voir quel est son impact carbone, c'est le nombre d'achats qu'on peut faire de vêtements chaque année.
Oui.
À mon avis, si on dépasse les deux jeans par an, ou si on dépasse...
Je vois pas pourquoi vous me regardez.
Hein. Les t-shirts, les t-tops, je pense qu'on a un impact carbone qui commence à être assez important.
Voilà, donc Caroline, on vous invite à ouvrir votre dressing et puis à voir un petit peu combien vous polluez la planète. Vous pouvez nous le répondre jusqu'avant la fin de l'émission, on est là jusqu'à 10h30 avec nos experts. Ça coûte moins cher justement de consommer éthique, Lucie ?
Ça coûte moins cher, alors ça dépend. au début, l'investissement est forcément un petit peu plus élevé. Alors si on consomme seconde main, non. Clairement, ça coûte moins cher si on consomme seconde main. Par contre, ça coûte plus cher dans le sens où c'est plus juste. Les marques éthiques margent moins. Elles ont des coûts de fabrication qui sont supérieurs, mais bon, ça, je suis pas la mieux placée pour pouvoir en parler. Mais donc oui, ça peut coûter plus cher. Un jean éthique sera forcément plus cher qu'un jean chez Zara, mais c'est normal puisque les jeans en fast fashion sont, enfin, c'est pas le bon prix. Parce que ça peut être le bon prix pour le consommateur, mais c'est pas le bon prix pour les personnes qui le fabriquent, en tout cas. Donc, ça coûte, oui, j'ai envie de dire, en tout cas pour moi, oui, ça coûte plus cher.
Thomas, cette loi qui a été évoquée par le gouvernement pour s'attaquer au gaspillage vestimentaire, je pense aux invendus du textile, puisqu'on le dit, c'est la deuxième industrie la plus polluante. Vous voyez quelque chose de positif là-dedans? Vous pensez que ça va pouvoir faire changer les mentalités, du moins?
En fait, les mentalités changent vraiment. Et effectivement, les récentes décisions politiques vont vraiment dans le bon sens. Je dirais que le symptôme le plus encourageant de ces changements, c'est que les grandes marques commencent à communiquer, alors certes de manière un peu exagérée par rapport à ce qu'elles font en réalité, mais le fait que les grandes marques communiquent à fond sur le respect de l'environnement, sur les conditions de production, etc., ça veut dire que c'est un sujet qui intéresse les consommateurs. Et du coup, bien sûr, elles ne le font pas par conviction, comme nous trois, là, qui vous disons les choix de vie et les choix professionnels qu'on a fait, mais elles le font parce que le marché le demande. Et le marché, c'est nous tous en tant que citoyens qui votons avec notre bulletin de vote, nous tous consommateurs qui votons avec notre carte bleue. Et du coup, de voir ce marché bouger et les grands acteurs, les politiques et les grandes marques se dire « Oups, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre des clients là si on continue de faire n'importe quoi ?» ça, c'est super encourageant parce que ça veut dire que c'est irrémédiable. Et ces grandes marques et ces politiques qui commencent à faire des actions, ça ne va que les engager à faire plus et mieux dans le temps. Alors après, on peut regretter que ce soit
contraint
de petits pas. Mais en fait, quand on porte ces décisions qui sont aussi complexes en termes de filières, d'emploi local parfois, de processus industriels qui font vraiment innover, ça ne peut que prendre de temps. Donc plus les consommateurs continueront de se mobiliser, et bien plus ça bougera ces grandes marques et ces politiques qui transformeront avec nous cette industrie qui fait pas que des bonnes choses, quoi.
Voilà, 04 95 32 22 22 pour poser toutes vos questions à nos invités. On parle aujourd'hui du gaspillage vestimentaire, comment agir. Et puis vous pouvez continuer, bien entendu, comme Caroline, à nous envoyer vos messages sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM.
L'AUE, Agence d'aménagement d'urbanisme et d'énergie de la Corse, lance l'édition 2019 des Trophées Énergie. Particuliers, entreprises, collectivités, associations, vous êtes porteur d'un projet exemplaire dans le secteur des énergies renouvelables, de la maîtrise de l'énergie, de la qualité de l'air ou de la mobilité durable, candidatez pour gagner jusqu'à 10 000 euros. Information et conditions en enanta A ou E. Punto Corsica.
Optique 2000, pour moi les meilleurs opticiens. Christiane Fridière, à Feur, dans la Loire, nous dit pourquoi.
Quand on porte des lunettes continuellement, on a besoin de renvoyer quelque chose de positif. Donc il est important d'avoir un opticien qui nous écoute. Et comme j'aime les lunettes originales, ils ont su me conseiller une marque que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à porter. Et puis ils m'ont parlé de l'objectif zéro dépense. Et c'est vrai que c'est intéressant.
Claire Moreau, l'opticienne optique 2000 de Madame Fridière à Feur.
Pour nous l'important c'est l'accueil. On passe beaucoup de temps avec notre client parce qu'on l'écoute beaucoup, on écoute ses besoins, puis le choix des verres. Tout ça en tenant compte de son budget bien sûr. Et optique 2000 étant partenaire de nombreuses mutuelles, nous gérons tout pour nos clients.
Alors Madame Fridière, contente d'Optique 2000?
Complètement, et de plus, il s'occupe de tout pour moi.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites...
On se préoccupe plus de l'environnement et des économies d'énergie qu'avant. Tout le monde en parle, mais j'ai l'impression que peu agissent.
On vous répond, chez Leroy Merlin, nous pensons comme vous. C'est pourquoi, dès cet automne, nous nous engageons à supprimer de nos rayons les convecteurs électriques, les fameux grille-pains qui consomment trop d'énergie.
Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin.
Hors chauffage d'appoint.
La météo avec Agir Plus d'EDF, la collectivité de Corse et l'ADEME. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Le matin, les nuages dominent et les éclaircies restent limitées. Quelques gouttes sont déjà possibles sur la côte orientale et la Castagniche. En cours de journée, ces pluies se généralisent sous un ciel couvert. Vent de nord-est, localement modéré en fin de matinée, puis atténuation. Température maximale entre 17 et 20 degrés et 14 degrés sur le relief. RCFM, il est 10h. Le point sur l'actualité, Didier Arnoux, bonjour.
Bonjour, et l'actualité, c'est toujours le dossier agricole avec à Altiane hier soir. Hier, la réunion entre agriculteurs et collectivités qui finalement a vu l'émergence de deux pistes. Une sociale pour venir en aide rapidement aux éleveurs avec la possible création d'un fonds de solidarité pour les exploitants les plus précaires. La deuxième concerne le développement agricole. Le problème est posé après le non-versement d'aides européennes pour environ 760 agriculteurs de Corse. 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, dont 5 avec sursis. Pour Jean-André Flore, jeune éleveur du centre Corse, il était jugé en comparution immédiate hier pour violence sur un CRS ayant entraîné une ITT de 40 jours durant la manifestation de soutien à Joseph Colombagne. C'était la semaine dernière devant le commissariat de Bastia. 4e jour d'audience du procès de Claude Chaussa aux assises des Bouches-du-Rhône. Déposant hier par vidéoconférence depuis la maison centrale d'Arles où il est incarcéré, Jean-Luc Germagne a déclaré avoir été surpris par l'assassinat de son beau-frère, Richard Casanova, dont il était très proche, mais uniquement pour des raisons familiales, dit-il. Il a indiqué qu'il ne fréquentait pas Francis Mariani. Les débats reprendront lundi matin avec l'audition des policiers qui ont mené l'enquête. Et puis le foot avec la Ligue 2 ce soir. En cas de victoire, les Ajacciens seraient premiers du classement provisoirement en attendant le match entre Lens deuxième et le leader Lorient demain. Pour cela, l'équipe d'Olivier Pantalone devra battre Rodez, actuellement 7e du classement à seulement 4 points des rouges et blancs. En national, match à domicile aussi pour le GFCA qui accueille Lyon-Duchère. Bastia Borgo, de son côté, se déplace à Toulon. Des rencontres à suivre sur notre antenne avec Olivier Castel et cela à partir de 20h.
Et merci Didier, on vous retrouve à 11h pour un prochain point sur l'actualité.
Waouh, Michel, quelle classe! T'as un rendez-vous galant?
Ah, mieux que ça, je reçois mon opticien.
Optique 2000 innove avec son nouveau service, Optique 2000 à domicile. Désormais, si vous avez des difficultés à vous déplacer, choisissez vos lunettes chez vous avec un opticien Optique 2000. Pour découvrir le service Optique 2000 à domicile, appelez le 0809 54 2000. Et comme toujours, votre opticien s'occupera de tous les papiers. Optique 2000! Une nouvelle vision de la vie.
Conditions et liste des magasins au 0809 54 2000 ou sur optique2000.com. Service gratuit plus prix de l'appel. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
RCFM, la première radio de Corse, partenaire de vos événements.
Soy Juan Francesco Erlardino.
D'una verida chi si ne può fa se l'un ne bida e torna con pa.
Per voi e da scoprire non terci FM porto un cuore, uno struisco nu.
Si campa lo profitto chi giro e lo estino.
En partenariat avec RCFM. France Bleu, RCFM. France
Bleu. RCFM, Christine Aloudi, les experts.
Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans les experts. On parle aujourd'hui de gaspillage vestimentaire. 10 kilos de textiles, c'est en moyenne ce qu'un Français achète chaque année. Entre des prix de plus en plus réduits et des collections de prêt-à-porter sans cesse renouvelées, le fast fashion ou mode de jetable affecte pourtant de façon considérable notre environnement. Quel est l'impact environnemental de nos vêtements, chaussures et autres textiles? Comment éviter ces pollutions? C'est notre dossier du jour.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Et toutes les femmes me disent, mais pourquoi on ne parle pas de sac à main? Mais oui, on va parler de sac à main, bien sûr. On va parler sac à main aujourd'hui avec Sabrina, bonjour.
Bonjour.
Sabrina de Lécoté, vous êtes créatrice de la marque de sac rose.
Oui, tout à fait.
Et vous êtes dans une démarche que toutes les femmes peuvent saluer, parce qu'on a toutes des sacs entassés sur nos étagères de dressing qu'on n'utilise plus.
C'est sûr.
Voilà. Et vous avez lancé, alors, comment on appelle ça? Une seconde main, en fait?
Alors, effectivement, c'est une seconde main. On a appelé ça une seconde vie.
Une seconde vie.
Pour donner une deuxième vie, en fait, au sac. On a lancé ça il y a un mois, donc c'est tout neuf, tout nouveau. En fait, on est parti du constat que, effectivement, les femmes ont beaucoup de sacs. Et du coup, beaucoup de sacs, pour le coup, aussi de notre marque, qui n'a que 5 ans, mais on s'est rendu compte qu'on avait un taux de rachat qui était assez élevé. En moyenne, nos clientes ont 4 sacs. comme en fait ce sont des sacs par saison. Et on s'est dit, mais pourquoi pas leur proposer, si jamais il y en a certains qu'elles laissent dans leur placard, qu'elles stockent, dont elles ne se servent plus, au lieu de plus rien en faire, de les remettre en circulation, de les faire revivre. Et pour cela, en fait, on a fait un questionnaire, on s'est rendu compte que toutes, en fait, les clientes étaient complètement OK sur l'idée. Et on s'est mis, voilà, on a dit, bah OK, alors on vous propose de les remettre en circulation. Ça passe par nous, on les nettoie, on vérifie quand même que le sac est encore portable. Et du coup, pour les récompenser, puisqu'elles ont quand même certaines du mal à les lâcher, leur
normal.
Sac à main qui est là. Voilà, c'est la continuité de nous-mêmes. Donc du coup, on leur propose, pour les récompenser, un bon d'achat pour en acheter un neuf.
Donc voilà, mais tout ça, on précise que c'est vraiment sur des sacs roses. Hein. Vous ne faites pas du tout du multimarque.
Oui,
hein.
Alors,
pour l'instant.
Oui, que pour notre marque. Effectivement, aujourd'hui, on est au sein de Rose. Et effectivement, comme c'est ce qu'on maîtrise, qu'on les fabrique en France, toutes les cuirs, les matières sont françaises, c'est vraiment une maîtrise. Donc on sait comment les réparer. Effectivement, une autre marque aujourd'hui, on ne le maîtrise pas. Ça ne veut pas dire que plus tard, on ne va pas le faire.
Voilà.
En tout cas, à l'heure actuelle, c'est que la marque Rose.
C'était dans un souci environnemental aussi que vous avez fait ça, pour lutter justement contre ce gaspillage?
Ah mais complètement, en fait. Je pense qu'on est aujourd'hui tous sensibles à ce sujet-là. Et je pense que de plus en plus, la consommation va tendre à ce niveau-là. C'est vrai que moi, j'ai toujours fonctionné dans des friperies. Les sacs, d'ailleurs, ont un ADN vintage parce que je les ai chinés au départ et ensuite, je les ai réactualisés. Donc, c'est vraiment une démarche aussi personnelle. L'idée était vraiment de se dire, mais c'est pas possible, tous ces cuirs et ces tissus qui restent dans le placard, ça peut très bien faire plaisir à une autre cliente à un prix tout doux. Donc, en plus, on touche une autre cible. Donc ça permet même au niveau de toutes les clientèles et de toutes les cibles de pouvoir donner accès à tout le monde aussi à un joli sac à différents prix. Et c'était vraiment l'idée de départ.
Mais c'est beau parce que souvent les marques justement elles veulent quelque part préserver leur image ou leur marché et pas justement donner moins cher leurs produits. Hein. Donc c'est louable ce que vous faites, Sabrina.
Bah, en fait. Moi, je trouve que c'est important de pouvoir le faire. On est vraiment dans une démarche de vente en direct aussi. C'est vrai qu'on essaye de pas avoir de trop grosse marge, de proposer un joli produit.
Et de qualité?
Et de qualité, bien évidemment, tout est fait en France, tout est artisanal. Ce ne sont que des séries limitées. Et c'est d'autant plus intéressant que les clientes, en fait, qui achètent les sacs de seconde vie, alors pour l'instant, on en a peu dans l'onglet sur le site internet, mais en fait, sont ravis que c'est des sacs qu'elles voulaient, mais qu'il n'y avait plus.
Voilà.
Donc en fait, ils reviennent en circulation. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y en a plus. C'est une série limitée, mais on peut le retrouver. Donc elles sont contentes parce qu'elles le retrouvent, elles l'avaient raté, on va dire. Et puis pour celles qui, du coup, voulaient y mettre pas un prix trop élevé, a accès à un sac auquel elle n'aurait peut-être pas pu avoir accès.
Bien sûr, c'est très intéressant. Je voudrais qu'on continue à parler prix, parce qu'au final, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est savoir qu'est-ce qui sort du porte-monnaie. Je voudrais qu'on vienne avec vous, Thomas. Vous, vos jeans, vous sont fabriqués en France, dans des matières nobles, et ce sont des jeans qui sont vendus au même prix que les produits des marques qui délocalisent, une centaine d'euros. Hein.
Oui, c'est ça. Donc, c'est pas des jeans au prix de la fast fashion.
Non, bien entendu.
Donc, effectivement, on est autour de 100 euros, on est concurrentiel des marques. Et ce qui est très intéressant quand on s'intéresse au marché textile, c'est que si on regarde les étiquettes des vêtements H&M, Zara, etc., et qu'on voit où sont faits ces jeans, et qu'on regarde les étiquettes des jeans de marque, on s'aperçoit qu'ils sont faits dans le même pays. Et du coup, les jeans qu'on achète 30 euros et que les enseignes de fast fashion vendent en direct, presque en les achetant directement chez le fabricant, ce sont les mêmes jeans qui sont vendus, grosso modo, par les grandes enseignes. En gros, une enseigne de fast fashion, elle va être pas chère, bien sûr, parce qu'elle a d'énormes volumes, mais aussi parce qu'elle les vend en direct. Et donc, entre le prix de revient et le prix de vente au consommateur, la multiplication va être de 3. C'est-à-dire qu'en gros, un jean que vous achetez 30 euros, il a été conçu pour une dizaine d'euros. Par contre, les grandes marques, elles sont l'intermédiaire entre les fabricants et les commerçants. Et du coup, le coefficient n'est pas x3, mais x10. Ça veut dire que le jean qui est vendu 100 euros par des grandes marques a coûté aussi 10 euros à fabriquer, puisqu'il est fabriqué dans le même pays. Et donc finalement, les marques pour lesquelles on sait le plus ce que l'on achète, les marques les plus honnêtes, en réalité, ce sont les marques de fast fashion, puisque du coup, elles ne surmargent pas sur des produits de piètre qualité. Mm-hmm. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le modèle économique de ces marques-là, qui vendent en direct, pour avoir plus de budget pour fabriquer en France. Donc pour réussir à faire un jean made in France et bio à 100 euros, et ben en fait on a éliminé tous les intermédiaires de distribution et on vend directement d'usine aux consommateurs. Et on fait pas de solde aussi, ce qui nous permet aussi de proposer notre jean chez des revendeurs. Donc grâce à ça, on limite au maximum les marges commerciales. Et donc un jean 1083 par exemple, ça coûte autour de 35 euros à fabriquer. Et ce qui est 3,5 fois le prix d'un jean fabriqué en Asie. Mais on réussit à le vendre au même prix que Levi's parce qu'on élimine le marketing, les intermédiaires de distribution, les soldes.
Et j'ai envie de dire, c'est un jean qui sera le premier, j'ai envie de dire, jean au monde qui est 100% économie circulaire, puisqu'en fin de vie, il pourra servir de matière première pour les prochains jeans.
Alors, on a trois projets en réalité sur l'économie circulaire. Le premier, c'est comme pour les sacs, on récupère les vieux jeans 1083 de nos clients et on les revend d'occasion dans nos magasins. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on est en train de faire des travaux de R&D pour devenir producteur de coton en France grâce au détissage et au défilage des vieux jeans. En gros, un vêtement, c'est du coton qui est organisé, qui est teint, qui est filé, qui est tissé pour former un vêtement. Et bien nous, on va faire le processus mécanique inverse pour retrouver le coton originel. Et ce coton originel, le refiler, le reteindre, le retisser. Donc ça sera prêt en 2020. Mais en 2019, on a notre troisième projet d'économie circulaire qui est déjà en place, qui s'appelle le jean infini, qui est un jean en polyester recyclé, qui est 100% recyclé. Tout est en polyester, donc il est 100%
recyclé. C'est issu de déchets marins, hein ?
Oui, c'est ça. Ce sont les fameux déchets marins dont on parlait tout à l'heure, ces microfibres. Mm-hmm. Et bien en fait, on les collecte, on les récupère avec des bouteilles, on les mélange avec des bouteilles de plastique. On en fait un fil. Ce qui est très intéressant avec le polyester, c'est qu'en fait, c'est un plastique qui se recycle à l'infini. C'est un peu comme l'eau et la glace. Ça fond, ça glace, ça fond, ça glace. Et ben en fait, sur le plastique, c'est pareil sur le polyester. Et du coup, si on réussit à faire un jean en tissu recyclé avec ces bouteilles de plastique et ces déchets de mer, avec des boutons en polyester, avec du fil à coudre en polyester, et bien ce jean est monomatière et du coup facile à recycler. Et donc, pour nous assurer qu'on va réellement le recycler, ce jean infini, c'est le premier au monde à être consigné. C'est-à-dire que le jean, vous allez payer 99 euros,
oui,
plus 20 euros de consigne, et ces 20 euros de consigne, on va vous les rendre quand, dans quelques années, vous nous rendrez le jean. Ce jean que vous allez nous rendre, et bien nous allons le recycler et refaire un jean neuf avec. Voilà comment on entre réellement dans l'économie circulaire.
C'est très bien. On parlait emploi tout à l'heure. Vous avez aussi créé l'école du jean en 2017. Vous apprenez à faire un jean de A à Z à vos couturières.
C'est ça, en fait. Pour fabriquer un jean, il y a 8 étapes. La culture du coton, la filature, la teinture, le tissage, l'ennoblissement, la coupe, la couture et le délavage. Ces 8 étapes, on les fait en France. Et du coup, 97% de l'argent que dépensent nos clients, donc 97% des 100 euros, il règle l'économie locale. Et donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait travailler ces filatures, ces teintures, ces tissages, ces ateliers de confection en France. Malheureusement, ces métiers-là sont des métiers qui ont un peu disparu, puisque depuis 30 ou 40 ans, on fabrique beaucoup moins de jeans en France qu'à l'époque.
Oui.
Et comme il n'y a plus d'école pour fabriquer ces métiers-là, eh bien, on les forme nous-mêmes. Donc, en effet, il y a 2 ans, nous avons créé l'école du jean, qui consiste à embaucher des demandeurs d'emploi et à les former pour les amener à fabriquer un jean en entier. Alors ça prend des années, mais grâce à ça, on embauche dans nos ateliers et en 6 ans, nous aurons créé 150 emplois en France.
Alors, aussi un petit peu quelque chose dont on parle beaucoup hein, quand on parle vêtements éthiques, c'est le upcycling. On est avec... on a des petits soucis techniques. Vive le direct. Donc, le upcycling, vous faites ça aussi un petit peu, Thomas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le upcycling ?
Le principe de l'upcycling, c'est en fait de repartir d'un produit en fin de vie et d'en faire autre chose. Par exemple, dans le jean, si vous avez un jean qui est usé au genou, vous pouvez couper les jambes, garder que le short, coudre le début des jambes au niveau du short, et vous faire un sac à main. Et bien, en fait, là, on va utiliser le jean en fin de vie pour faire un autre produit. On peut aussi faire des vêtements dans des chutes de tissu ou dans des fins de rouleau. Tout ça, c'est de l'upcycling.
Voilà, donc du coup, l'upcycling qui permet justement de consommer mieux, de consommer éthique. Vous faites ça aussi, Lucille Bas, du upcycling ?
Pas du tout.
Non.
Non, pas du tout. Moi, après, j'ai suffisamment peu de sièges pour ne pas avoir le charme. Mais tout, j'ai gardé leur fonction première. J'ai pas de sac à main qui viennent d'autres pièces. Non, j'en ai pas du tout.
Et quand vous achetez, justement, vous allez vers ce genre de pièces?
En upcycling, vous voulez dire?
Oui.
On a déjà eu une vie. Oui, j'aime bien l'idée, parce que finalement, quand on a un peu de vêtements, après, on aime bien les vêtements qui ont une histoire, que ce soit des marques qui déjà ont une histoire, mais aussi le vêtement. Donc, par exemple, il y a plein de personnes qui adorent le vintage ou aller en dépôt-vente parce que soit le vêtement s'est déjà patiné, soit il y a une histoire. Et effectivement, j'aime bien ce genre de pièces, qu'on soit déjà servi ou voilà, porter quelque chose qui n'est pas complètement neuf.
Et quand vous conseillez, alors qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux personnes, puisque vous êtes conseillère, je le rappelle, en image éthique. Qu'est-ce que c'est conseillère en image éthique? Qu'est-ce que vous leur dites à ces filles qui viennent vous voir?
Alors, par exemple, la prestation que je fais le plus, c'est d'aller dans le dressing, une première chose, et de trier le dressing.
Hop,
et avec
on fait le tri.
Qui reste, on fait des nouvelles tenues. En fait, on a tellement notre tête dans le dressing tous les jours qu'on se rend plus compte qu'on peut faire des nouvelles associations et finalement presque avoir des nouveaux vêtements au quotidien. Et donc au lieu d'aller racheter des choses, et ben on va aller voir s'il y a pas des belles tenues à faire dans le dressing, mais que mes clientes savent pas faire elles-mêmes, parce qu'elles n'ont pas pensé. Donc ça, c'est vraiment une première étape et tout de suite ça fait la différence, puisqu'elles vont se découvrir, peut-être elles n'avaient pas pensé à mettre
telle chose avec telle chose.
Voilà, à porter toujours un pull en dehors d'une jupe et elle ne se rendait pas compte que juste de mettre le pull dans cette jupe, ça allait marquer la taille. Juste de rajouter une ceinture, de rajouter un collier.
Donc, des fois, il ne suffit pas de grand-chose, hein, finalement. Hein.
Mais clairement, mais vraiment, la plupart du temps, j'arrive à faire une vingtaine de tenues modernes et qui sont adaptées à la morpho et au quotidien et à la personnalité de mes clientes, juste en faisant un tri du dressing.
Vous êtes une magicienne.
Mais ça permet vraiment de faire un point, et faire un point qui est pour moi donc éthique et positif, puisque on va pas dépenser dans les magasins, on va pas aller acheter du neuf, mais on va faire avec ce qu'on a. Et en plus, c'est beau parce que on se rend compte finalement que souvent c'est des clientes qui ont un peu confiance en elles, parce qu'elles disent mince, je sais pas trop m'habiller, je me sens mal. Et en fait, si elles savaient les pièces qui sont jolies dans les magasins, elles avaient déjà ce goût, mais rien que de leur montrer comment bien les associer, elles se disent « Ah oui, c'est vrai, en fait, j'avais bon goût, je savais juste pas comment les associer. »
Et finalement, j'avais pas besoin d'en acheter encore, parce que je remplis juste et je sais toujours pas comment m'habiller le matin. On vide aussi les étagères, les choses qu'on met pas, qu'est-ce qu'on en fait? On les met en vente sur les vide-dressing, on les fait recycler?
Le plus important, c'est vraiment de pas jeter un vêtement. Un vêtement, il peut être recyclé, il y a plein de façons possibles. Donc, on a parlé du upcycling. Il peut être effectivement déposé en association ou chez Emmaüs. Par exemple, moi qui habite à Paris, il y a plein de ressourceries. Il suffit d'aller déposer le vêtement pour pouvoir les aider. Pour pouvoir aider l'association ou pour pouvoir les remettre sur le circuit. Il y a des associations pour plein de choses. Donc, moi, le mieux vraiment, c'est ça, c'est de pas jeter le vêtement à part qu'ils sont condis. Un vêtement qu'on peut jeter, c'est vraiment un vêtement qui est inutilisable, donc très usé, souillé, troué. Mais sinon, si on peut s'en servir, par exemple, moi j'ai les cheveux bouclés, donc les femmes qui ont les cheveux bouclés, vous pouvez vous servir des t-shirts en coton pour vous essuyer les cheveux. Comme ça va pas abîmer votre cheveu. Voilà, il y a plein de choses à faire, à détourner.
Ah, donc vos vêtements, ils vous servent aussi à vous sécher les cheveux?
Donc juste le t-shirt en coton, mais par exemple, ouais, c'est l'idée.
Non, mais c'est marrant, puisqu'on apprend des choses, 04 95 32 22 22, vous pouvez nous appeler si vous avez des questions sur le gaspillage vestimentaire ou si vous voulez vous exprimer sur le sujet. Vous continuez bien sûr à nous envoyer vos messages sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM. J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, ouais. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je
Donnez-moi de l'été, donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, oh, eh.
Les frangines, donnez-moi sur RCFM.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
On parle aujourd'hui du gaspillage vestimentaire. Comment agir? C'est notre dossier du jour. On parlait juste avant la chanson de l'upcycling. C'est quelque chose que vous pratiquez, Augustin, l'upcycling. 50% de votre collection est en upcycling. Hein.
Et tout à fait. Non, nous, c'est effectivement un choix qu'on a fait qui nous a semblé depuis le début évident. Quand on a des enfants, on se rend compte que effectivement, il y a énormément de gaspillage qui est réalisé par les grandes marques. Et du coup, on s'est un peu promené, on est allé voir dans la région parisienne et on tombe sur des entrepôts qui sont bourrés de tissus. Et en fait, c'est des chutes de production de beaucoup de grandes marques qui ne sont pas forcément réutilisées derrière. Et ça, c'est effectivement assez catastrophique. Et du coup, dès le départ, on a voulu produire avec ces tissus-là. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est des petits tissus qui peuvent être de très bonne qualité, des tissus vraiment d'un certain nombre de grandes marques françaises. Et du coup, derrière, nous, on les réutilise. Et au départ, 100% de notre production était faite comme ça. Et petit à petit, ça a évolué. Aujourd'hui, on est à 50% parce qu'on est distribué par un certain nombre de distributeurs qui aussi ont besoin d'avoir des minimums de production.
Bien sûr. Donc 50% upcycling, 50% éco-responsable.
Tout à fait. Et en fait, ensuite sur l'éco-responsable, c'est assez intéressant. Effectivement, on est assez proche de tout cet écosystème, de tout ce mouvement vers la réutilisation. On utilise deux certifications. Econil, et en fait, Econil, c'est tout ce qui est produit recyclé, 100% recyclé et recyclable à partir de récolté dans les océans. Par exemple, comme les filets de pêche. Mmh. Et ça, par exemple, c'est notre première collection de maillots de bain qu'on va lancer cette année, qui va être 100% certification Econil. Et ensuite, l'autre certification importante qu'on utilise, c'est le label OECOTEX, qui est non nocif pour l'environnement et pour la peau. Et ça, c'est 100% de notre collection, qui va être soit upcyclée avec des tissus de qualité, soit avec ces deux labels.
Et vous faites aussi du Fab Lab créatif, hein?
Tout à fait. C'est notre concept, c'est en fait de faire appel deux fois par an à des créateurs indépendants qui vont créer avec nous des croquis et qui ça peut être des créatrices amateurs d'ailleurs qui vont réaliser un croquis pour Marsou et ensuite on s'occupe pour elles du développement de la création de A à Z et ensuite on commercialise au nom de la créatrice en collaboration avec Marsou.
Donc en fait, ça permet pour les jeunes créatrices de passer un petit peu du rêve à la réalité, hein, puisque de voir son croquis être commercialisé mondialement, c'est super, c'est bien même dans l'esprit, quoi.
Exactement. Et ça, c'était le concept de départ. Et maintenant, on fait deux fois par an des collaborations avec des créatrices qui sont plus ou moins amateurs. Ça dépend vraiment des moments, mais on est ouvert à toutes les collaborations.
Vous aussi, Thomas Hurier, vous aviez fait des collaborations. Hein, La Fuma, Smuggler, hein, c'était quoi ? C'était pendant l'Euro 2016, c'est ça ?
Oui, on fait beaucoup de collaborations. En fait, c'est vraiment super intéressant de mélanger les univers. Ça permet aussi de se faire connaître, bien sûr, et puis de s'entraider sur nos points forts respectifs. Donc là, on a fait une collab avec Saint-James, avec qui on a fait, comme nous, on est sur la diagonale des 1083 km, et eux, ils sont sur la marinière, on a fait ensemble une marinière en diagonale. On a fait un jean aussi avec Saint-James. On a fait une super collab avec la Fédération française des sapeurs-pompiers, puisqu'on récupère leurs vieux vêtements pour les détisser et refaire des vêtements neufs avec. Donc on a fait toute une gamme de pulls volontaires qui sont faits en partenariat avec les sapeurs-pompiers de France. Mm-hmm. Et puis on travaille aussi avec la Gentle Factory, qui est spécialiste français du il souhaite Made in France et recyclé avec Smuggler, qui est le spécialiste français du costume, avec Saint-James, comme je le disais. C'est vraiment une manière aussi de se dépasser, puisque du coup, on apprend des nouvelles technologies, on rencontre des gens super engagés, et du coup, c'est très excitant, quoi.
C'est quelque chose qui vous intéresse d'exporter, je dirais, alors non pas vos produits à l'international, puisqu'on a bien compris que qu'on va réduire notre impact environnemental, donc c'est pas le but d'exporter les vêtements, mais d'exporter, je dirais, votre concept dans le but de monter ailleurs des filières locales.
Oui, clairement, le but c'est de se rapprocher toujours plus, d'être de plus en plus dans la proximité. Donc l'international, on trouve ça génial. Le commerce international, c'est génial. C'est l'échange, c'est la paix, c'est le partage. Mais c'est génial si c'est fait intelligemment. Et l'export des produits nous paraît être la manière la plus bête de faire du commerce international.
Voilà.
Et donc du coup, on aimerait vraiment partager ce que l'on vit et ce à quoi on croit en développant des filières locales. Alors ça, c'est évidemment valable au niveau international dans le monde. C'est-à-dire que si demain on veut vendre des jeans 1083 aux États-Unis, peut-être qu'au début on va faire l'amorce avec des jeans qu'on aura fabriqués en France, mais
d'accord,
ce sera vraiment transitoire pour fabriquer plus tard ces jeans directement aux États-Unis. Et même si on pense à l'échelle de la France, aujourd'hui nos jeans ils sont confectionnés à Marseille, à Bobigny, à Calais, à Romans. Tous ces jeans qui sont confectionnés un peu partout en France reviennent dans nos locaux à Romans, dans la Drôme, et sont réenvoyés chez des clients qui eux-mêmes peuvent se trouver à Marseille, à Bobigny, à Calais ou à Romans. Donc en fait, on aimerait vraiment régionaliser au fil des ans la production, avec une production à Marseille qui distribue les jeans 1083 de la France. Pourquoi pas une production en Corse qui distribue les jeans 1083 vendus en Corse. Tout ça créera de l'emploi local, limitera les kilomètres et donc sera encore plus cohérent avec notre démarche.
Ah, peut-être à 1083 en Corse, ça va peut-être un scoop alors.
On en rêve. Hein. Si vous avez un atelier de confection en Corse, contactez-nous. Ça serait génial de faire une production 1083 de jeans en Corse.
Voilà, donc l'appel est lancé à tous les créateurs. Vous pouvez appeler même au standard. On vous met en contact avec Thomas Aurier. On est là pour ça aussi, hein, justement, pour mettre en contact les personnes qui ont envie justement de changer le monde avec plein de bonne volonté. Thomas, vous mettez des étiquettes sur vos jeans fabriqués à moins de 1083 km de chez vous. Quand on achète neuf, est-ce qu'on peut aussi se repérer sur les étiquettes pour savoir si on achète responsable ou pas, j'ai envie de dire.
Alors oui, on peut. Après, c'est pas évident parce que la filière complexe, la filière textile est très complexe. Il y a 8 étapes pour faire un jean. Du coup, c'est facile pour les marques de raconter un peu n'importe quoi. Heureusement, il y a des labels qui permettent de savoir effectivement comment et où sont fabriqués les jeans. Quand vous achetez des fruits et des légumes, c'est obligatoire pour le commerçant de vous indiquer d'où ils viennent, donc ça permet de vous informer. Par contre, pour les vêtements, ce n'est pas obligatoire. C'est pour ça que parfois, il n'est pas indiqué l'origine, enfin le lieu de fabrication du produit.
D'accord.
Pour autant, il y a des labels Ecotex, effectivement, pour parler du respect de l'environnement. Le label GOTS aussi, qui s'assure que tout est bio. Le label Origine France Garantie, qui oui, permet de vérifier que le vêtement que vous achetez est réellement fait en France.
Donc il faut que, on rappelle, Origine France Garantie, on en a parlé en début de semaine, c'est il faut que 50% de la valeur du produit soit française, que ce soit de la main d'œuvre, que ce soit, c'est ça, hein, Origine France Garantie.
Oui, c'est même, alors pour le dire, c'est même un peu plus complexe que ça, et c'est tant mieux. Non seulement il faut que 50% du prix de revient du produit soit fait en France, mais il faut qu'il y ait la confection faite en France aussi, et le tissage. Pourquoi le tissage? Parce que dans l'histoire du jean, le jean c'est un produit très international. Il est américain pour les uns, il est de gènes pour les autres, d'où le jean, c'est le même mot. Et la toile du jean s'appelle le denim parce qu'il viendrait de la vie de denim. Mm-hmm. Et donc, comme la part française du jean, c'est le tissu, pour avoir la belle origine France garantie, il faut que le jean soit confectionné en France, mais aussi tissé en France. Et ça, c'est très bien parce que ça fait travailler tous nos tisseurs français.
Super. Bon, ce sera le mot de la fin, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous d'avoir été nos invités ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur le gaspillage vestimentaire sur notre site internet France Bleu RCFM et la commenter sur nos réseaux sociaux.
France Bleu RCFM.